fruits de l'esprit au sein de la communauté dans laquelle on se trouve, la communauté chrétienne. Et nous devons justement utiliser tous ces dons-là que le Seigneur nous donne pour l'édification de cette Église. Mais dans l'ordre, et dans l'ordre bienséant, hein, dans, sans esprit d'orgueil, parce que c'est ça que le Seigneur nous a donné ces dons, pour que nous ne puissions pas nous enorgueillir, mais de dire au Seigneur seulement merci. Paul, une nouvelle fois, on va lire les versets 1 à 3, hein, de chapitre 12. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous laissiez entraîner vers les idoles, muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et qu'en nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est que par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Voilà, Paul, encore une fois, hein, il va répondre à des questions qu'on lui a posées. Et ici, il nous est dit au verset 1, pour ce qui concerne, il abandonne toutes les choses dont il a parlé déjà, les choses charnelles, on a vu, hein, division, préférence et tout ça. Il laisse de côté les choses charnelles pour montrer les choses spirituelles. D'ailleurs, il nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le mot « don », il n'y est pas dans la traduction grecque. La vraie traduction, c'est qui concerne les spirituels, les choses spirituelles. Les dons, il a été mis là pour que nous ayons une meilleure compréhension. Voilà pourquoi c'est des choses spirituelles qui sont utiles pour l'Assemblée. Et il parle des réalités spirituelles ou des choses spirituelles, le premier verset. Dans sa réponse aux Corinthiens, Paul, il redresse d'abord des erreurs qu'il faisait dans la doctrine. Puis il donne des règles pratiques pour l'usage des dons dans les cultes. Voilà, il veut ramener certaines erreurs dans lesquelles les Corinthiens, ils étaient. Mais, et alors, il nous montre les règles qu'il faut utiliser par ces spirituels que nous allons voir. Et on va voir différentes choses. La première chose dans ce verset 1 à 3, comment discerner si c'est l'Esprit de Dieu qui parle ou c'est un autre esprit. D'ailleurs, si vous remarquez bien, Paul, il écrit à l'église de Corinthe et il les appelle frères. Donc, il parle à des chrétiens. Il les appelle frères. Et il dit, je ne veux pas que vous laissiez dans l'ignorance. Et pourquoi? Parce que c'est des choses que déjà il leur avait dit. Voilà pourquoi il les ramène dans le passé. Et dans les souvenirs dans lesquels ils étaient. D'ailleurs, il nous le dit, quand vous étiez encore païens, étrangers au peuple de Dieu, il leur rappelle d'où ils viennent et surtout de quelle manière ils étaient entraînés. Ils étaient entraînés par qui et par quoi? Par des idoles muettes. Paul, il leur dit, vous êtes maintenant auprès de Dieu, près l'Esprit de Dieu. Vous vous êtes tourné vers ces idoles muettes qui ne peuvent rien faire. D'ailleurs, elle dit, à quoi est-ce qu'on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui vous dirige? Parce que vous dites, le Seigneur, Jésus est mon Seigneur. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne dit pas, Jésus est mon Seigneur. Et ici, dans lequel Paul veut bien mettre l'accent, c'est les mots « Seigneur ». Ça, c'est pour montrer la divinité de Jésus-Christ. Et il utilise dans les Grecs les mots « kurios ». Et ces mots « kurios », il est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de l'Éternel. Mais on voit que Jésus, il parle de la divinité de Jésus, mais justement, il utilise les mots « Jésus ». Personne ne peut dire que Jésus n'est pas le Seigneur. Voilà, il utilise les mots de Jésus et pas Christ et pas Dieu pour nous montrer l'humanité parfaite de Jésus. Voilà pourquoi il dit, si vous n'avez pas, vous voulez vous tourner vers des idoles muettes, mais vous ne pouvez pas dire Jésus, il n'est pas Seigneur. Si vous dites que Jésus est Seigneur, c'est parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup dans les églises des fois, dans les églises surtout catholiques, hein, vous n'entendrez jamais dire Jésus-Christ le Seigneur. Et, non, ils disent ça, Jésus-Christ le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que il faut avoir l'Esprit de Dieu pour que quelqu'un puisse dire Jésus est le Seigneur. Et ça, c'est ça que la chose est plus importante. Paul, il veut mettre l'emphase sur la seigneurie de Jésus-Christ, en leur disant, Jésus, il est le kurios de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, toujours en parlant de Jésus et le Seigneur, si vous regardez à la fin de chapitre 16, 16-22, d'ailleurs, il dit, c'est lui qui n'aime pas les seigneurs, qu'il soit maudit. Voilà pourquoi il rapproche les deux ensemble. Celui qui dit Jésus est mon Seigneur, c'est qu'il a l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne dira jamais Jésus est Seigneur. Et au chapitre 16, à la fin, il dit c'est lui qui n'aime pas les seigneurs. Il ne dit pas Jésus, hein. C'est lui qui n'aime pas les seigneurs, soit maudit. Pourquoi? C'est quelque chose de très important, Paul, qu'il me touche tout de suite d'emblée, que la seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est ces versets-là, 1 à 3, qui met l'emphase sur cette chose-là. Il veut leur parler de la seigneurie de Jésus qui intervient dans la vie de tous ceux qui se tournent vers lui. Voilà pourquoi il dit, je ne veux pas que vous ignoriez. Vous étiez dans un état déplorable et maintenant, en acceptant le Seigneur, vous êtes passé dans un autre état. Celui spirituel. Et pour cet état-là, le Seigneur, il a pourvu en vous donnant des choses que vous ne possédiez pas auparavant. Et voilà pourquoi il commence au verset 4 jusqu'au verset 11. Il nous montre les dons spirituels, la spiritualité, les choses spirituelles. Comme je vous ai dit, le mot « don », il n'est pas « dedans ». Donc, il parle des choses spirituelles. Pourquoi il parle des choses spirituelles? Parce que ces dons, ils ne viennent pas de l'homme, mais ils viennent de Dieu. Lisons le verset 4 à 11. Voilà ce qu'il dit. « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, un autre la foi par le même esprit, un autre les dons de guérison par le même esprit, un autre les dons d'opérer des miracles, un autre le prophétiser et un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues, un seul et même Seigneur chacun en particulier comme il veut. Paul, il arrive à cette fameuse question des dons spirituels, tant débattue chez les Corinthiens et dans nos églises au XXe et au XXIe siècle. Vous connaissez très bien que sous les dons spirituels, il y a des vues différentes, mais la parole de Dieu, elle est claire. Ici, au verset 4, il nous parle des dons. Au verset 4, il y a les mots dons, mais pas au verset 1. Je vous ai dit, au verset 1, il parle de la spiritualité, des choses spirituelles. Au verset 4, il met les mots dons. Et le mot don, en grec, c'est le mot charisma. Charisma. Et ça signifie grâce. Voilà pourquoi il est question des dons. Donc, un don, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de Dieu. Il ne vient pas de nous. Nous n'y sommes pour rien. C'est Dieu qui donne les dons. Les dons ne sont pas signes de spiritualité. C'est pas parce que quelqu'un il a un don qu'il est spirituel. C'est Dieu qui donne cela. Et les Corinthiens, ils s'est vantés de cela. Mais les dons, c'est des signes de la grâce de Dieu. Un don, vous savez bien ce que c'est un peu comme le salut, c'est un don de Dieu. Les dons que le Seigneur il donne pour pratiquer la spiritualité dans les églises, c'est aussi un cadeau. S'il a été offert par le Seigneur, il n'y a aucune raison de s'enorgueillir ou de dire « moi j'ai ces dons, moi j'ai ces dons ». Tu l'as parce que Dieu, il te l'a donné. D'ailleurs, il nous est dit dans Corinthiens 4, 7, il nous est dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Dans Jacques 1, 17, hein, il nous est dit, tout bienfait et tout don viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières. Oui, tout don, il vient de Dieu. Donc, il faut être conscient de cela. C'est Dieu qui nous donne ces choses-là. Voilà pourquoi c'est très important de connaître cela. Un don, c'est Dieu qui nous le donne. Et à propos de ces dons, ils sont partagés en trois. Il y a les dons de grâce. Je l'ai ici, je vais vous le... Il y a les dons de grâce, il y a le don du ministère, et il y a le don de la manifestation, de la puissance. Le don que Paul nous donne ici au chapitre 12, ils ne sont pas tous là. Il y a dans Romains, on va pas les lire, mais je vous exhorte de les lire, hein, vous, Romains 12, versets 3 et 9, hein, mais c'est mieux de les lire, hein, parce que on va voir qu'il y a des dons que Paul il ne nomme pas ici. Mais regardez Romains, chapitre 12, Romains 12. Si vous l'avez avant moi, vous pouvez lire 12, 3 à 9. Voilà, 12, 3 à 9. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais à revêtir des sentiments modestes, selon la mesure des fois hein, que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, voilà, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce de Dieu, Encore une fois, Paul, il nous dit que avoir un don, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne ça, qui nous a été accordé. Que c'est lui qui a le don des prophéties, l'exerce selon l'analogie de la foi. Que c'est lui qui est appelé au ministère, s'attache à son ministère. Que c'est lui qui enseigne, s'attache à son enseignement. Que c'est lui qui exhorte à l'exhortation. Que c'est lui qui donne, le fasse avec libéralité. Que c'est lui qui préside, le fasse avec zèle. Que c'est lui qui pratique la miséricorde, le fasse avec joie. Encore une fois, ça c'est les dons de grâce. Les dons de grâce que Dieu il nous donne. Et les voilà, les dons de grâce. Je les ai ici et je vais vous les donner, comme on vient de les lire, hein, toutes ces choses-là. Hein, les dons, la prophétie, la foi, celui qui est appelé au ministère, la prophétie, le ministère, à l'enseignement, à l'exhortation, la libéralité donnée, hein, et la miséricorde. Ça, c'est des dons de grâce. Ces dons, c'est Dieu qui nous les a donnés. C'est lui qui nous donne les pouvoirs et les faire. Voilà pourquoi c'est très important que nous sachions que Romain, il nous montre les dons de la grâce. Et c'est toutes ces choses-là que Dieu il nous donne. Et ensuite, il y a aussi les ministères. Les ministères, on les trouve au verset chapitre 12, le verset 27 à 31. Si vous le trouvez avant moi, vous pouvez le lire. Et c'est le ministère. 1 Corinthiens 12, 27 à 31. 12.
Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence.
Voilà, exact. Ça, c'est les ministères. Les ministères. Et c'est quoi ces ministères? C'est les dons que Dieu a fait aux hommes. C'est les apôtres, c'est les docteurs, c'est les évangélistes, c'est le prophète, et tout ça, il a fait pour une seule chose, pour que l'Église, elle soit enseignée. Et ces ministères-là, ils doivent être exercés, c'est pour servir. Servir le Seigneur et mettre en pratique les dons de grâce. Vous en souvenez, les dons de grâce, quels étaient? Ils étaient prophétisés, servir, enseigner, exhorter, donner, diriger et miséricorde. Ça, c'est les activités. Et ces activités, c'est ceux qui ont ce ministère qui doivent les mettre en pratique. Voilà pourquoi ces gens auxquels Dieu il a donné à l'Église, hein, ces quatre ministères-là, ils doivent les mettre en pratique. Et encore une fois, c'est quelque chose que des fois, on n'arrive pas à mettre en pratique. On croit que ces choses-là, elles sont réservées à tous. Non, il y a des ministères que le Seigneur nous a donnés et nous devons faire très attention à ne pas nous approprier ces ministères auxquels le Seigneur il a donné à des hommes. Et c'est là. Et la troisième catégorie des dons, On le trouve dans Corinthiens, on vient de le lire, hein, chapitre 7 jusqu'au au verset 11. Hein, c'est les manifestations. Hein, on vient de les lire, les manifestations. 7. Chacun manifeste l'esprit à donner pour l'utilité commune. En effet, à l'un a donné l'esprit de parole, la parole de sagesse, parole de connaissance, parole de la foi, parole de les dons d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Et tout cela, c'est un seul et même esprit qui fait cela. Donc voilà, la première chose que nous devons avoir, connaître, c'est que les dons, ils se partagent en trois. Il y a le don des grâces, il y a le ministère, c'est-à-dire le, ceux qui s'y sont dans l'Église et qui travaillent pour que l'Église puisse avancer, et ensuite il y a la manifestation qui se pratique dans l'Église, parole de sagesse, parole de connaissance, la prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues, et c'est toutes ces choses-là que le Seigneur, et Paul, il veut enseigner aux Corinthiens. Et nous devons faire très attention. Voilà pourquoi il y a des choses à connaître d'abord et sur ces dons, sur ce que Paul il dit à propos de ces dons. C'est encore une fois, je répète, parce qu'on va reprendre la semaine prochaine, parce qu'avant, il faut connaître la praticité de ces dons. Alors, on va voir, on a un peu lu hein, ces trois versets, hein, mais c'est Dieu qui donne les dons comme il le souhaite. C'est pas à nous de choisir. En Corinthiens 12, 11, on a vu que les dons, ils sont donnés par Dieu, par grâce, à chacun en particulier, comme il a voulu. C'est pas nous qui cherchons les dons. Mais c'est Dieu qui les donne, en particulier à chacun de nous, comme il a voulu, comme il a décidé. Et au verset 18, il répète encore une fois, comme il a voulu, c'est Dieu qui choisit. Par rapport à la connaissance qu'il a de chacun de ses enfants, par rapport à ce qu'on vit avec le Seigneur. Donc, il nous donne des dons. Voilà pourquoi chacun de nous, il nous est dit qu'il a reçu un don. Dans Éphésiens 4, 11, il dit, c'est lui, c'est Dieu qui a donné les uns comme. C'est toujours Dieu. Nous ne rentrons pas en jeu sur ces choses-là. Pourquoi? Parce que recevoir un don, c'est recevoir la grâce. C'est Dieu qui dispense la grâce, qui utilise les chrétiens pour que son Église il puisse avancer. Et dans Pierre 5, 11, ce verset, il nous dit, « Puisque chacun de nous a reçu un don, a reçu cette grâce de Dieu, alors mettons-le en pratique dans l'endroit où Dieu il nous a placés. » Hein, encore une fois, tenez dans l'esprit, c'est ça. Le mot charisme, que ça veut dire don, signifie grâce. Et des fois, on parle beaucoup des charismatiques. Hein, on connaît tous les charismatiques. Mais vous savez, on est tous des charismatiques. Même nous, chacun de nous, il a reçu un don de Dieu, donc on est charismatique. Sauf que cette croyance des charismatiques, il a complètement changé l'enseignement que Paul il apporte. Il a apporté des enseignements d'hommes, où il a interprété d'une façon erronée ce que Paul il enseigne. Voilà pourquoi les dons spirituels, ils sont les fruits de la grâce de Dieu dans la vie d'un croyant. Dans notre vie, chacun de nous, il a un don. Les chrétiens, un autre point, les chrétiens n'auront jamais tous les dons. On n'a pas tous les dons. À Corinthe, nous avons lu dans les premiers chapitres, qu'il y avait tous les dons. Mais tous ces dons, ils n'étaient pas sur un seul croyant. Ils étaient là dans l'Église. Dieu, il les dispatchait pour que son Église, elle puisse avancer. Hein, il nous est dit dans Corinthiens 8 à 10, il nous est dit, à l'un il est donné ça, à l'autre il est donné ça. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est un corps. Et nous devons marcher ensemble. À un certain moment, le Seigneur, il dit, l'œil ne peut pas dire au corps, je crois que c'est le Seigneur, au Paul, qui a dit ça. Non, c'est le Seigneur. Hein? Toutes les parties du corps, le corps, il est formé par différentes parties, mais toutes les parties doivent être unies pour que le corps, il puisse avancer. Hein? Et dans Corinthiens 12, 14, Paul, il nous le répète, il dit, le corps est formé de plusieurs membres. Et dans chaque membre, il y a un don. Et tous ensemble, nous devons mettre ces dons pour l'édification et pour que le corps de Christ puisse avancer. Et nous est dit aussi, l'objectif de ces dons, c'est quoi l'objectif de ces dons? L'objectif, il nous le dit dans Corinthiens 12, verset 7, pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune, pas pour l'utilité commune et pas pour nous-mêmes. Nous ne devons pas nous enorgueillir et se dire, moi j'ai ces dons-là, j'ai plus que toi. Non, c'est pour le bien de la congrégation, de l'Église. Et dans Éphésiens 4, verset 12, il nous est dit que Dieu il nous a donné les dons pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ. Mais encore une fois, tous ceux qui ont les dons que Dieu il nous a donnés, ça ne nous empêche pas d'accomplir les choses qui ne dépendent pas des dons que Dieu nous a donnés. Hein? Nous avons des responsabilités communes, chacun de nous qui appartenons à ce corps, et nous devons les accomplir, et pas se dire, moi j'ai ces dons, je ne fais que ces choses-là. Voilà pourquoi c'est très important, c'est-à-dire les chrétiens ont des responsabilités communes, même si pas tous n'ont pas la même tâche, par exemple, servir les uns les autres, nous exhorter les uns les autres, donner à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est les dons de donner. Vous savez, des fois, on se dit, mais moi, je donne. Mais si tu donnes, c'est parce que c'est Dieu qui l'a mis ça dans ton cœur. Ce n'est pas toi-même qui le fait. C'est Dieu qui te dit de venir. C'est un don. Quelqu'un, il donne, même il dit, mais je ne donne pas la dîme, comme on dit. Je donne plus. C'est parce qu'il a le don de donner. C'est-à-dire que la première chose qu'il fait, c'est regarder aux besoins de ses frères et sœurs. Il y a aussi les dons de miséricorde, hein, le être bon les uns envers les autres. Ça, c'est quelque chose que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. En plus de ces choses, des dons que le Seigneur peut-être nous a donnés. Mais pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va faire avancer l'Église. Et aussi, nous devons marcher par la foi. Et c'est selon notre marche par la foi et pour notre attachement au Seigneur que le Seigneur il nous donne ces dons de grâce, que nous devons les mettre en pratique. Et c'est là aussi qu'on rentre en jeu avec cet enseignement des charismatiques. On peut se demander, mais tous ces dons, est-ce qu'ils sont là pour toujours? Est-ce que on les aura constamment ou est-ce que ils sont là pour un temps? Et tous ces dons, ils doivent exister, hein? Ils doivent exister. Par exemple, les dons d'apôtre. Les dons d'apôtre, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il avait bien établi ce que c'est un apôtre. D'abord, c'est le Seigneur qui l'appelle, en particulier lorsqu'il était ici-bas sur cette terre. Le mot apôtre, ça signifie messager, envoyé. Hein? Et il s'applique à la fois à Christ. Christ, c'est l'envoyé du Père, n'est-ce pas? Hein? Il s'applique aussi parfois aux chrétiens. Nous sommes envoyés aussi pour apporter cette bonne nouvelle. Et il s'applique parfois aux collaborateurs de Paul. On parle de tel collaborateur de Paul, il est appelé apôtre, mais c'est envoyé, c'est un messager. Hein? Mais surtout, le mot apôtre, il s'applique aux douze. Aux douze. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Pourquoi? Parce que un apôtre, il est appelé par Jésus-Christ, hein? Et c'est ça. Et les critères pour être apôtre, hein, on le voit dans Actes 21-22, lorsqu'il y a eu le remplaçant de Judas, n'est-ce pas, hein? Il devait avoir accompagné les apôtres et Jésus pendant tout le temps que Jésus il était là. Il devait être là depuis les commencements, avoir été témoin de sa résurrection. Hein? Et selon 1 Corinthiens 9-1, l'apôtre se distingue aussi avoir vu le Seigneur, avoir vu le Seigneur, et avoir aussi accompli des miracles, accompli des miracles. Et Paul, vous me direz, mais Paul, il n'a pas été avec le Seigneur, il n'a pas été choisi par le Seigneur lorsqu'il était si bas. Oui, Paul, il a été choisi par le Seigneur, parce qu'il l'a arrêté sur le chemin de Damas, hein, et il l'a appelé. Oui, Paul, il a accompli des miracles. Oui, Paul, il s'est présenté en tant qu'apôtre. C'est le Seigneur, c'est lui le douzième apôtre, comme j'ai toujours dit. C'est pas le Matthias qu'il a été choisi par les apôtres, tandis que Paul, il a été choisi par le Seigneur. Donc, est-ce que on trouve aujourd'hui des gens avec ces critères? Mais non. Hein? Et ce passage-là, il renforce la conviction. Éphésiens 2, 20, il dit, ils étaient là pour donner un fondement à l'Église. Ils étaient là pour donner un fondement à l'Église. Apocalypse 21, 14, il nous dit que leur gloire est particulière. Pourquoi? Parce qu'ils ont été avec le Seigneur. Ils ont été choisis par le Seigneur pour poser les fondements. D'ailleurs, il nous a dit que nous avons mis notre foi sur la fondation, hein, des apôtres qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Voilà pourquoi c'est quelque chose que nous devons bien avoir. Donc, le mot apôtre, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on l'entend très souvent. Hein? Je suis apôtre du Seigneur. Voilà pourquoi. Et il y a une autre chose qui n'est plus aujourd'hui, qui ne se pratique plus, c'est le parler en langue. Le parler en langue. Hein? Ces points-là, c'est une cause d'affrontement, parfois amer entre chrétiens. Voilà. Et c'est ça qu'il y a la différence entre les charismatiques. Ils ont utilisé des enseignements qui viennent des hommes. Ils ne se sont pas basé sur ce que la parole nous dit. Et c'est sur ça que les choses ils se sont gâtées. Le parler en langue, on va terminer d'en parler la semaine prochaine. On a vu tous les dons des grâces, on a vu les ministères, on a vu les activités qui doivent se dérouler dans les églises, et on a vu que parmi ces dons qu'ils étaient là à la première église, il y a des dons qui se sont arrêtés. Le premier don qui s'est arrêté, c'est le don d'apôtre. Le don d'apôtre, il s'est arrêté, ça n'existe plus. Et le deuxième, c'est le parler en langue. On va y retourner la semaine prochaine, si Dieu veut. Mais déjà, pour ce soir, tenez dans votre enseignement que le mot don, en grec, c'est charisme. Et ça signifie grâce. Le don, ça ne vient pas parce que nous avons fait des choses ou parce que nous sommes spirituels. c'est Dieu qui les donne à chacun. Et comme il veut, quelqu'un peut être un chrétien bien avancé, qui l'observe tout, mais c'est l'Esprit qui donne. C'est Dieu qui utilise les gens. C'est Dieu qui donne des dons. C'est un don de grâce. Et nous devons mettre en pratique ce auquel le Seigneur il nous a donné. Et encore une fois, chacun de nous a un don. Peut-être qu'il y en a qui ont un autre don aussi, deux dons ou trois dons. Pourquoi? Parce que toujours par rapport à le rapprochement qu'ils ont avec le Seigneur. Donc voilà, déjà pour ce soir, il y a le don de grâce, il y a le don du ministère et il y a le don des activités. Hein, il y a aussi le don de miracle qui s'est passé, on va le voir par la suite. Hein. Il y a le don de guérison, comme j'ai prêché dernièrement. Hein, chacun de nous, il a le don de guérison, mais pas par rapport à la santé, mais par rapport à ce que nous pouvons apporter à nos frères et sœurs. Et des fois, comme il est dit dans Proverbe, une bonne parole, il rajeunit les eaux. Hein, on apporte la guérison, on apporte le bien-être dans la vie de nos frères et sœurs. La guérison, parce que des fois, même si on n'est pas malade, des fois, on n'a pas envie de rien faire. Et ça suffit que quelqu'un y vienne et nous apporte un don, avec son don, une exhortation, une bonne parole, et alors nous rentrons encore une fois dans cette joie du Seigneur. Voilà pourquoi David il avait dit, rends-moi la joie de ton salut, car à cause de son péché, qui était pardonné, il n'avait plus cette joie. Mais voilà, le Seigneur, il a prié et le Seigneur il lui a rendu cette joie. Voilà, que le Seigneur nous aide à persévérer dans ces dons. Et on va voir la semaine prochaine, hein, les parler en langue, les dons de guérison, que c'est des dons qui sont périmés, qui se sont arrêtés, mais tous les autres, ils sont là. Et encore une fois, pourquoi ils sont là? Pour l'édification de l'Église, pour le bien-être des frères et sœurs, pas pour nous élever nous-mêmes. Voilà, que le Seigneur il nous aide à mettre en pratique ces choses-là. On va continuer la semaine prochaine. Olivier, tu...